Tous les jours à partir de 9h, l'équipe d'Okapi Service se met entièrement à votre service. Santé, consommation, droits du citoyen, éducation, conseil au monde rural. Les spécialistes répondent en direct à vos questions. Avec ONG Partenaires, l'emploi, le conseil du jour et Service Plus, trouvez des pistes simples pour améliorer la vie de tous les jours. Okapi Service, l'émission libre au service de la radio de la paix.
Bien, nous parlons de l'agriculture familiale. Vous savez, c'est la principale forme d'agriculture dans la production alimentaire. Elle permet d'organiser la production agricole sous la gestion d'une famille. Celle-ci repose essentiellement sur la main-d'œuvre familiale, aussi bien que sur les hommes que sur les femmes. Elle joue un rôle important au niveau socio-économique, environnemental et culturel. Comment réussir ces types d'agriculture? Jean Desdieu Minengou, agronome et expert en environnement, est notre invité. Bonjour Jean Desdieu.
Bonjour aujourd'hui et bonjour à tous les auditeurs de la radio Capi.
Alors dites-nous, quels sont les préalables pour réussir une agriculture familiale?
Merci Jody. Comme vous venez de le dire, l'agriculture familiale, c'est un instrument incontournable pour nourrir la population à travers le monde, c'est-à-dire assurer la sécurité alimentaire. Elle permet de créer de l'emploi et elle joue un rôle extrêmement important pour assurer la protection de l'environnement. Alors, que faut-il faire pour réussir l'agriculture familiale? Et je dis, dans le cas de la République démocratique du Congo, nous pouvons dire que l'agriculture familiale fait face à de nombreuses contraintes. La première contrainte, je dis, c'est la question du changement climatique.
Monsieur Jean Desdieu, vous êtes dans un bâtiment, on entend des échos, hein, c'est possible de... d'aller à un endroit où il y a moins d'écho, peut-être à l'extérieur, je crois que ce sera une bonne chose. Hein.
Oui, je crois que là, ça marche bien, il n'y a pas assez d'écho là où je suis.
Non, il y a toujours des... il y a toujours quelques échos, mais allez-y, s'il n'y a pas moyen de sortir, allez-y quand même.
Oui, donc la première contrainte, comme je venais de dire aujourd'hui, c'est la question du changement climatique. Et avec le bouleversement du calendrier agricole, avec l'augmentation des températures, avec le développement des maladies et ravageurs, donc l'agriculture familiale, dans le contexte actuel, n'est plus capable d'assurer la sécurité alimentaire des populations. C'est pourquoi les instituts nationaux tels que le Service national de vulgarisation, les SNASN, les SNASIC, sont dans l'obligation de jouer un rôle important pour que l'agriculture familiale puisse s'adapter aux enjeux des changements climatiques. Je dis la deuxième contrainte, c'est la question des accaparements des terres agricoles. Okay, cette question ne fait pas encore l'objet de beaucoup de débats en République démocratique du Congo, mais déjà en Afrique de l'Ouest, c'est un grand problème, parce qu'il suffit seulement de quitter la ville de Kinshasa. Vous êtes en route pour Kikwit, vous êtes en route pour le Bandundu, vous allez vous rendre de l'ampleur de la question.
Donc, oui, alors Jean Desdieu, d'abord, si on peut récapituler, donc l'agriculture familiale, c'est celle qui repose, qui est pratiquée par la famille, dans une famille.
Et déjà, aujourd'hui, vous avez déjà défini l'agriculture familiale, donc vous l'avez dit, l'agriculture familiale, c'est celle dont la main-d'œuvre est essentiellement familiale et les moyens de production sont très, très élémentaires. Donc, il n'y a pas de mécanisation poussée, il n'y a pas une utilisation des variétés améliorées, il n'y a pas l'utilisation d'intrants chimiques, de produits phytosanitaires. C'est cette agriculture qui se réalise essentiellement avec la main-d'œuvre familiale et avec des moyens de production qui ne sont pas très sophistiqués, mais avec des moyens de production qui sont à la disposition des agriculteurs.
Est-ce que dans notre pays, on peut dire que c'est une forme d'agriculture qui est beaucoup développée?
Oui, je dis, et en dépit de l'intensification du système de production à travers le monde, la mécanisation, l'utilisation de variétés améliorées, et l'utilisation des pesticides ou autres intrants, l'agriculture familiale à travers le monde, c'est elle qui fournit plus de 75% de la production alimentaire mondiale. Donc, c'est la principale activité agricole à travers le monde, bien qu'aujourd'hui on parle de l'intensification de la mécanisation de l'agriculture. Donc, cette forme d'agriculture, c'est elle qui intéresse beaucoup d'instituts de recherche aujourd'hui et beaucoup d'universités, parce qu'on sait que l'humanité ne sera plus capable d'assurer la sécurité alimentaire si nous ne fournissons pas assez d'efforts pour maintenir l'agriculture familiale.
Par exemple, ici chez nous, on voit souvent à Kinshasa, même dans la périphérie, certaines maraîchères, avec soit leur mari ou les enfants pratiquer l'agriculture. Donc c'est une grande activité qui permet de nourrir la population, qui permet là, une grande production alimentaire, bien que c'est avec des moyens rudimentaires. Alors aujourd'hui, comment peut-on réussir à cette forme d'agriculture? Parce que vous l'avez dit, souvent c'est avec des moyens rudimentaires et les agriculteurs n'ont pas assez de semences pour développer leurs champs.
Oui, je dis, je crois qu'il y a trois éléments importants à prendre en compte si nous voulons aujourd'hui et amener l'agriculture familiale à un niveau très élevé. Le premier élément à prendre en compte, ou ce que nous devons faire au niveau national, c'est que le pouvoir public congolais devait mettre en place ce que nous appelons des politiques nationales de promotion de l'agriculture familiale. Aujourd'hui, nous devons tous être convaincus que les efforts sont en train d'être fournis au niveau du gouvernement pour la modernisation de notre agriculture, pour booster notre agriculture à devenir un instrument important du développement économique de la République démocratique du Congo. Mais dans ces politiques-là, il y a très peu d'efforts qui sont fournis pour la promotion de l'agriculture familiale. Donc le conseil que nous donnons au pouvoir public, bien qu'aujourd'hui on parle de la création des centres et des parcs agro-industriels, mais à côté de ces parcs, il faut savoir que l'agriculture familiale, c'est cette forme d'agriculture qui joue un rôle important pour le développement de l'agriculture en République démocratique du Congo. Oui à la création des parcs agro-industriels qui doivent être des instruments importants d'appui à l'agriculture familiale. Alors comment cela peut se faire? Moi je crois qu'il n'y a pas de contradiction entre création des parcs agro-industriels et agriculture familiale. Lorsqu'on crée des parcs agro-industriels, nous les conseils que nous donnons, le parc agro-industriel devrait être là pour produire des intrants qui devraient se retrouver le lendemain entre les mains des agriculteurs. On produit des semences améliorées, on produit des biopesticides, on produit des fertilisants organiques tels que les composts, mais également on produit quelques outils agricoles qui peuvent se retrouver entre les mains des agriculteurs. Troisième et quatrième élément qui pourrait se trouver au niveau du parc agro-industriel, qui devrait également soutenir l'agriculture familiale, je dis, c'est l'installation de petites unités de transformation des produits agricoles. Vous êtes au Bas-Congo où les gens produisent beaucoup les citrus, vous avez les mandarines, les orangers, les oranges, etc. Mais ce fruit-là, dans la plupart, pousse comme ça dans la nature. Mais si, à travers la création des petits parcs agro-industriels dans les différents territoires de la République démocratique du Congo, au Bas-Congo, mais on peut avoir des jus, des citrus, des jus d'orange, des jus de mandarine, déjà transformés, emballés, et cela pouvait permettre aux agriculteurs d'avoir beaucoup plus de moyens que ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc voilà, ça c'est le premier élément, donc la mise en place des politiques nationales de promotion de l'agriculture familiale. Je dis, le deuxième élément, c'est que les structures publiques de l'État qui s'occupent de la promotion de l'agriculture familiale, vous avez le Service national de vulgarisation, vous avez le CNACEM, vous avez le CNACIP, vous avez l'INERA, donc l'État devrait renforcer ces instituts-là en moyens humains, matériels et financiers pour que ces structures puissent soutenir avec beaucoup plus d'efficacité l'agriculture familiale en République démocratique du Congo. Mais aussi, ces instituts devraient descendre auprès des producteurs pour les aider à améliorer leurs techniques de production. Parce qu'il est connu de tous que la pratique de l'agriculture itinérante sur brebis n'est plus capable aujourd'hui de permettre aux agriculteurs d'atteindre des niveaux de production les plus importants. Donc il faut que ces instituts aillent auprès des agriculteurs pour leur apprendre de nouvelles techniques de production. Vous avez l'agroécologie, et là vous avez l'agriculture de conservation, vous avez l'agroforesterie et d'autres pratiques qui permettent à ce que notre agriculture s'adapte par rapport aux enjeux climatiques, par rapport aux enjeux économiques et par rapport aux enjeux sociaux.
Bien, nous parlons de l'agriculture familiale, comment réussir ce type d'agriculture. Jean Dédieu Bilingou est agronome et expert en environnement. Un premier auditeur en ligne, Symphorien Bidoya de Kananga, on va l'accueillir dans quelques instants.
Ouvrez l'agenda culturel tous les jours. Les concerts à ne pas rater, les nouveaux disques, peintures ou photos, les expositions à voir. Les artistes ont leur rendez-vous sur Radio Okapi. La culture congolaise est bien vivante, nous la mettons en valeur. L'agenda culturel tous les jours à 6h20, 8h15 et 14h10.
Laissez-vous guider.
Comment réussir une agriculture familiale? Symphorien Bidoya de Kananga, bonjour. Symphorien, vous êtes à Kananga, bonjour.
Bonjour, je dis bonjour à l'invité.
Quelle est votre préoccupation?
Oui, j'ai des petites préoccupations. La première, nous remarquons que cette agriculture familiale est beaucoup pratiquée dans des milieux ruraux que des milieux urbains. Qu'est-ce qu'il y a à la base de ça? Je voudrais que l'invité puisse m'éclaircir. Et puis la deuxième question, quel impact cette agriculture familiale aurait si on arrivait à la respecter dans tous ses principes dans notre pays? Je vous remercie.
Bien, Titus de Mbujimaï, bonjour.
Bonjour.
Alors, Titus, avant de poser la question, s'il vous plaît, veuillez éteindre votre radio. Vous allez sur la partie de votre téléphone. C'est fait?
Oui, ma question est celle-ci.
Titus, c'est fait? Vous éloignez-vous de votre radio ou fermez carrément votre radio? Vous allez sur la partie de téléphone.
Oui, c'est déjà fait.
D'accord, allez-y.
Ma question est celle-ci. Les virus Ebola est causé par quoi?
Oh, mais on ne parle pas du virus Ebola maintenant, on parle de l'agriculture familiale, Titus.
Ah, va.
Merci d'avoir appelé, bonne journée. Jean des Dieux, vous êtes là?
Merci beaucoup.
D'accord. Jean des Dieux, vous êtes en ligne? Jean des Dieux.
Notre intervenant qui a dit que l'agriculture familiale est beaucoup plus pratiquée au niveau des milieux urbains. Pourquoi? Donc, je pense qu'on n'a pas dit ça. L'agriculture familiale n'est pas seulement pratiquée dans les milieux urbains.
Non, il a plutôt dit que c'est beaucoup plus dans les milieux ruraux que dans les milieux urbains.
Ok, donc l'agriculture familiale est beaucoup plus pratiquée dans les milieux ruraux, c'est tout à fait normal, parce que là, les moyens de production utilisés dans les milieux ruraux, ce sont des moyens tout à fait élémentaires. Les gens ne peuvent pas s'acheter des engrais, les gens ne peuvent pas s'acheter des pesticides, et là aussi, la mécanisation de l'agriculture n'est pas très poussée. Mais dans les milieux ruraux aussi, il y a ce que, comme vous l'avez dit, je vous dis, les mamans qui font les maraîchages ici, dans la ceinture périurbaine de Kinshasa. Mais je dis, c'est l'agriculture familiale. Donc, c'est tout à fait normal que l'activité soit beaucoup plus développée au niveau rural, parce que c'est là où, d'abord, les espaces sont très importants pour réaliser l'agriculture, contrairement dans les milieux urbains. Mais l'agriculture familiale se réalise à la fois dans le milieu urbain, mais également aussi en milieu rural.
Oui, et puis il veut savoir quel peut être l'impact de cette forme d'agriculture.
Oui, je dis comme nous l'avions dit, que l'agriculture familiale joue un rôle important pour assurer la sécurité alimentaire à travers le monde. Quand vous voyez en République démocratique du Congo, je dis plus de 90% de la production alimentaire, tout ce que nous consommons, quand vous allez sur les marchés à Gambela, vous allez à Matete, mais tous ces produits-là, ça vient d'où? Quand vous êtes à Goma, tous ces produits qu'on retrouve sur le marché, ces produits viennent de l'agriculture familiale. C'est l'agriculture familiale qui produit ça. Donc, ça joue un rôle important d'abord pour assurer la sécurité alimentaire, mais c'est grâce à cette agriculture que vous voyez beaucoup de jeunes qui sont à l'université, qui sont ailleurs en train d'étudier, mais cet argent provient également. Donc, ça joue un rôle important sur le plan économique, sur le plan social, mais également sur le plan de l'environnement, en protégeant l'environnement, parce que l'utilisation des pesticides est très réduite et d'autres produits qui peuvent vraiment altérer le fonctionnement normal de l'environnement. Voilà, je dis ce que je peux donner comme réponse par rapport à la question que notre ami venait de poser.
Voilà, mais certains pensent que cette forme d'agriculture, c'est seulement pour les besoins de la famille. On vend ça pour avoir de quoi manger, de quoi payer les minervales, mais est-ce que cela permet aussi les développements à une grande échelle?
Oui, je dis, la différence qui existe entre l'agriculture familiale et l'agriculture industrielle ou l'agriculture commerciale, à ce qui concerne le but visé, c'est qu'au niveau de l'agriculture familiale, vous avez deux buts qui vont. Le premier but, c'est d'assurer d'abord la sécurité alimentaire au niveau de la famille. Ça, c'est le premier. Le deuxième but, c'est qu'il y a une partie de la production qui va se retrouver au niveau du marché. Mais dans l'agriculture commerciale ou dans l'agriculture industrielle, le but principal de la production, c'est le marché. Il n'y a pas d'autoconsommation. Donc, ce n'est pas que cette agriculture, c'est seulement pour l'alimentation, mais beaucoup de produits que nous retrouvons sur le marché ont été produits ailleurs et les gens ont vendu ça. Donc, ça permet d'assurer la sécurité alimentaire des ménages, mais c'est également une source de revenus pour plus de 75% de la population congolaise.
Voilà, Adrien Namouyeti nous appelle de Lumbashi. Bonjour.
Bonjour, Monsieur Jody Daniel Kachama. Bonjour aussi à Monsieur Jean de Thier Minengou.
Bonjour.
C'est connu de tous que la communauté internationale reconnaît les rôles clés des agriculteurs familiales dans la lutte contre la faim, la pauvreté et les inégalités. Alors, ma préoccupation est de savoir, Monsieur Jean de Thier, quel impact des agriculteurs familiale sur le développement. Comment faire évaluer les politiques pour mieux soutenir et quelles solutions innovantes tout au long de la filière? Merci, M. Jody Daniel.
Bien, Jean Desdieux.
Oui, bon, en fait, l'agriculture familiale, comme nous l'avions dit, a beaucoup d'impact sur la vie. Donc, si vous voyez, comme nous l'avions dit, par rapport à ce qui se passe dans notre système de production, c'est l'agriculture familiale. Donc, sans l'agriculture familiale, on ne parlerait pas de la sécurité alimentaire en République démocratique. Et sur le plan économique, tout ce que vous voyez comme produit qui défile à travers les marchés, à travers les usines pour la transformation, l'essentiel de cette production provient de l'agriculture. Donc ça a un impact très important, comme Adrienne elle-même venait de le dire, sur la vie sociale, sur la vie économique et sur la vie environnementale en République démocratique du Congo. Alors, que faut-il faire et quelles sont les politiques qu'il faut mettre, comme nous l'avions dit? C'est que dans le cadre de l'élaboration des politiques nationales en matière de promotion de l'agriculture, il faut que l'agriculture familiale soit intégrée dans ces politiques-là. Aujourd'hui, comme nous l'avions dit, et que les efforts sont en train d'être fournis, mais il y a très peu de regard par rapport à l'agriculture familiale. Nous avons plus de 75% de la population qui vivent directement de l'agriculture. Cette agriculture, c'est l'agriculture familiale. Donc, si le pouvoir public congolais soutenait ces gens-là, on est en train vraiment de lutter contre la pauvreté. Parce que s'il y a un apport important à plus de 75% de la population, je dis, c'est le développement de la République démocratique du Congo. Et on serait en train de parler aujourd'hui d'un pays émergent. Donc voilà aujourd'hui les quelques éléments que je peux donner par rapport à la question d'Adrien.
Alors vous parlez que le pouvoir public devrait s'impliquer pour soutenir cette forme d'agriculture. Comment, quelle peut être la nature de ce soutien, de cette implication pour développer ces secteurs?
Oui, je dis, comme je l'ai dit déjà au début, aujourd'hui, le pouvoir public est en train de fournir vraiment le maximum d'efforts pour que le Congo soit un pays agricole, soit une puissance agricole, pardon. Alors, mais que faut-il faire finalement par rapport à ça? Moi, quand je parle de politiques agricoles, je voudrais dire ceci. Aujourd'hui, on regarde beaucoup plus les parcs agro-industriels. On les dit, on va les créer à travers la République démocratique. Moi, j'adhère vraiment parfaitement à cette idée, mais le conseil que je donne dans cette politique-là de création des parcs agro-industriels, il faut donner une nouvelle orientation aux parcs agro-industriels. Pas des parcs qui doivent être là pour produire du maïs, pour produire du manioc, pour produire de l'arachide et bien d'autres produits, mais des parcs qui doivent être là pour produire des intrants, pour transformer les produits agricoles. Je dis, vous allez dans beaucoup de villages ici de la République démocratique du Congo, vous avez des manques pourrissent. Mais si on a des petits centres agro-industriels à travers les territoires de la République démocratique du Congo, où les gens peuvent prendre ces manques et fabriquer du jus qui va se trouver sur le marché à Kinshasa, et c'est du jus qui peut se vendre à travers le monde, parce que ça sera un jus bio. Ça, moi, j'appellerais ça vraiment la modernisation de la République. Mais c'est pourquoi je donne ce conseil qu'il faut donner une nouvelle orientation au parc agro-industriel, et ça permettra à ce que les politiques nationales qui sont mises en place par rapport au développement de l'agricole vont avoir des effets durables. Pas des effets seulement à la télé où on montre des choses, mais des effets à long terme sur le développement socio-économique de la République démocratique du Congo. Voilà, je dis toujours dans le cadre des politiques, comme nous l'avions dit, nous avons des services publics qui s'occupent de l'agriculture. Vous avez le service national des vulgarisations. Nous avions parlé de l'agroécologie. Mais ces pratiques-là, il y a des recherches qui sont réalisées au niveau des facultés des sciences agronomiques. Il y a des recherches qui sont réalisées au niveau de l'INERA et bien d'autres centres. Mais il faut que ces recherches arrivent au niveau des communautés locales. Mais qui va amener ces recherches au niveau des communautés locales, je dis? Mais c'est le service national de vulgarisation. Nous avions parlé également des semences. Aujourd'hui, avec la question du changement climatique, il faut que les pouvoirs publics, à travers ces services, puissent aider les communautés locales, les agriculteurs familiaux, à trouver des semences résilientes au changement climatique. Donc il faut un renforcement de ces structures étatiques pour que ces structures puissent jouer un rôle important pour le développement de l'agriculture. Au niveau des villes, les problèmes, ce sont les accaparements des terres. Donc les terres agricoles villageoises se retrouvent aujourd'hui entre les mains des gros exploitants, entre les mains des grandes entreprises, soit publiques, soit privées. Il faut que l'État essaye de réorienter cette question
des accaparements de terres pour permettre à ce que notre agriculture puisse jouer un rôle important pour le développement. On ne devient pas riche en travaillant dans une exploitation, mais on devient riche lorsqu'on travaille pour soi-même. Donc oui. Voilà, je dis ce que je peux dire en rapport avec la question que vous venez de me poser.
Est-ce qu'il existe un type particulier de, on peut dire, des cultures? Est-ce qu'il y a des cultures qui sont répertoriées dans l'agriculture familiale? Différents types de cultures qui sont pratiquées uniquement dans cette forme d'agriculture?
Non, je dis, toutes les cultures, quand vous arrivez au village, vous avez des familles qui ont des fermes, ils produisent du café, ils produisent du cacao, ils produisent du manioc, ils produisent... Toutes les cultures peuvent faire l'objet, peuvent être intégrées dans l'agriculture familiale. Mais quand vous allez dans la province de l'Équateur, vous allez au Bandundu, au Katanga, partout, à Goma, les gens font de l'agriculture familiale. Donc il n'y a pas de culture spécifique pour l'agriculture familiale. Toutes les cultures qui sont réalisées au niveau des ménages, au niveau des familles, et font partie de l'agriculture familiale.
Voilà, Héritier nous appelle de Kananga. Bonjour.
Oui, bonjour, là, c'était là.
On vous écoute, Héritier.
Oui, je voudrais juste dire ceci. Cette agriculture décourage plusieurs personnes car ses revenus coûtent presque moins cher. Tel est l'exemple de mon secteur de Lukibu dans le territoire de Jimbelengue, ici à Kananga. Dans la province du Kasaï occidental, un méga de maïs coûte 200 à 300 francs congolais, par exemple au mois de, à partir de décembre jusque là, sauf par exemple en ce moment où un méga va jusqu'à 800, 700 francs.
C'est quoi un méga héritier?
Le méga du maïs, l'exemple que j'ai donné.
Oui, c'est, vous dites?
Oui, par exemple au mois de, à partir de décembre, le méga de maïs coûte 200 francs, et puis avec des montants comme ça, les gens se découragent pour faire de telles choses, et puis ils se lancent dans la culture pour mettre des arachides et autres, parce que là-bas, c'est et puis la production, c'est toujours rien.
Oui, donc
ça,
vous dites
ça
que...
décourage un peu la
oui.
Plupart des...
À Dimbelengue, une mesure de maïs, ça coûte 200 francs, donc ça ne rapporte pas tellement aux agriculteurs, donc bon nombre s'y découragent. C'est ce que vous voulez dire, hein?
Oui, c'est comment on peut encourager ces gens à continuer à cultiver, parce que la ville de Kananga est alimentée par la plupart des villageois qui sont de l'autre côté, mais partout dans l'intérieur de la province, et puis... C'est presque rien. Les prix des revenus, en tout cas, ça décourage les gens à cultiver ces histoires.
Jean de Dieu, vous avez suivi un bon nombre d'agriculteurs dans les milieux ruraux. Ils produisent beaucoup, mais ça leur rapporte presque rien parce que vous avez suivi une mesure de maïs revient à 200 francs congolais à Dimbelengue, d'après Héritier.
Oui, je dis, c'est vrai qu'aujourd'hui, et l'agriculture, surtout dans beaucoup des coins de la République démocratique du Congo, est devenue une activité complètement aléatoire. Les raisons sont multiples aujourd'hui. Vous avez d'abord les infrastructures routières sont complètement inexistantes. C'est pourquoi il faut réhabiliter les routes de desserte agricole pour que les produits quittent et les lieux de production pour aller vers les centres de consommation. Ça, c'est un élément. Et nous avions parlé ici des parcs agro-industriels. Si au niveau de chaque, vous êtes à Dimbelengue là-bas, si au niveau de chaque territoire, ou au niveau, ça dépend des moyens, ça dépend de la politique que le gouvernement pourrait mettre, on a des petites unités de transformation de produits. Au lieu de ramener les concepts de manioc qui pèsent beaucoup, mais on peut déjà transformer les produits déjà au niveau des sites de production, et ça fera en sorte que les produits puissent peut-être se vendre à un prix élevé, et que les gens, au niveau du marché, et que les gens trouvent déjà un produit déjà transformé, et ça va permettre à ce que les agriculteurs se retrouvent. Donc, il faut réhabiliter les routes de dessertes agricoles, il faut réorienter les politiques nationales pour que l'agriculture puisse devenir une activité qui doit permettre à des millions de personnes de vivre dignement. Donc, voilà, je dis ce que je peux dire par rapport à la question que notre ami venait de poser.
Voilà, donc la solution, c'est de déplacer des unités de transformation dans ces villages pour que les agriculteurs puissent aussi rentrer dans leurs droits. Ouketi nous appelle de Mahagi, en province orientale. Ouketi, bonjour.
Bonjour, messieurs les journalistes. C'est moi, Ouketi Fundi, à partir dans le territoire de Mahagi.
Alors, nous parlons de l'agriculture familiale. Qu'est-ce que vous voulez nous dire?
Ok, j'ai une seule question à poser à l'invité.
Oui.
Est-ce que, par exemple, il est approprié à quelle culture de faire l'agriculture familiale?
Oui, pouvez-vous répondre à la question?
Ma question est celle-ci.
Oui.
Est-ce qu'il y a des plantes appropriées pour faire l'agriculture familiale?
D'accord. D'ailleurs, c'est la question qu'on a posée aussi tout à l'heure à l'invité. Jean de Dieu, est-ce qu'il y a des plantes appropriées pour l'agriculture familiale?
Oui, je dis, c'est ça que vous aviez déjà expliqué ça, et finalement, et peut-être notre ami n'avait pas bien compris. Donc, nous avions dit qu'il n'y a pas... L'agriculture familiale, c'est-à-dire qu'on n'aille pas vers des définitions académiques qui essayent un peu de compliquer les choses. Notre ami qui est à Mahag, il doit savoir que l'agriculture qui est pas ce que les ménages font, ce que les mamans, nos parents sont en train de faire là, au niveau des Mahag, pour produire des denrées alimentaires, c'est ça l'agriculture familiale. Donc qu'on ne se fasse pas beaucoup d'illusions, parce qu'on appelle ça agriculture familiale, ça devient quelque chose d'extraordinaire. Non, c'est tout ce qui est pratiqué là, mais c'est ça l'agriculture familiale. Et dans ce qu'ils font, il n'y a pas de limitation de culture, ça dépend des conditions dans lesquelles vous vous trouvez, ça dépend des moyens dont on dispose. Il y a des gens qui font beaucoup de culture, ils font des maniocs, les maïs, la pomme de terre, ça dépend de là où vous êtes, et ça dépend des conditions où les cultures peuvent croître. Donc, en bref, pour dire qu'il n'y a pas de culture spécifique pour faire l'agriculture familiale. Il n'y a pas de culture à pauvreté. Toutes les cultures peuvent faire l'objet de l'agriculture familiale au niveau là où on se trouve. Donc voilà, aujourd'hui, la réponse que nous pouvons donner à notre ami qui est Amadi.
Voilà, comment réussir une agriculture familiale? Jean des Dieux, vous avez dit qu'il faut mettre en place une politique nationale des promotions de cette forme d'agriculture, renforcer les institutions des promotions des qui font la promotion des semences ou qui apprennent aux agriculteurs des nouvelles techniques culturales et puis installer des unités de transformation parce qu'il y a beaucoup de produits qui pourrissent dans nos villages faute des routes des dessertes agricoles. Alors il faut il est important de placer des unités de transformation pour conserver ces produits et permettre également aux agriculteurs de rentrer dans leurs droits. Dieu merci, il nous appelle de Manono. Bonjour, il est dans la province du Katanga. Bonjour.
Bonjour, bonjour à tous les auditeurs de la radio.
Oui, parlez un peu plus fort, Dieu donné. On vous écoute, Dieu merci.
Oui, j'ai une question au député à poser à l'invité du jour, que c'est Jean Dédé.
Oui.
Et la première question, c'est savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour valoriser l'agriculture familiale qui a disparu surtout dans notre territoire ici avec l'exploitation artisanale de tout près. Pourquoi? Parce que beaucoup de familles se donnent plus à l'exploitation artisanale des minerais au détriment de l'agriculture familiale. L'idée, c'est abonder au même sens que notre. Qu'est-ce qui a réagi à partir d'un bout de maille? Qu'est-ce qu'il a dit? Il y a vraiment sur le plan économique. Et si on doit vendre un mica de maïs ou bien une mesure d'une crédit ou bien une quantité de maïs à 200 francs, vous voyez que la personne doit très vite abandonner cette activité pour embrasser une autre en vue de gagner ou bien de réaliser un peu de bénéfices importants. Pour Manon, c'est le même cas. La plupart des gens ne se donnent pas à l'agriculture familiale. La majorité se donne soit au trafic de poissons, soit à la cassiterite, creuser localement. Tout ça, c'est ma deuxième question, c'est savoir qu'est-ce qu'on peut faire pour que qu'il y ait un choix de masse pour cette agriculture familiale.
Bien, merci. Jean de Dieu Minengo.
Oui, il revient pratiquement sur la question de notre ami qui a appelé à partir du Kassai occidental.
Mmh.
Alors, qu'est-ce faut-il faire? Parce que les gens, aujourd'hui, essayent d'abandonner l'agriculture parce que ce n'est pas très rentable. Oui. Et ça, c'est tout à fait normal parce que aujourd'hui, les gens, vous allez partout dans beaucoup de coins de la République démocratique, la production est là, mais il n'y a pas d'acheteurs. Pourquoi il n'y a pas d'acheteurs? Il n'y a pas d'acheteurs parce qu'il n'y a pas de route. Ou soit la voie ferrée qui existait à l'époque ne fonctionne plus bien, il y a des déraillements et des choses du genre. Et finalement, vous avez des coins qui sont complètement enclavés. Et lorsque un coin ou un village où les gens sont censés produire, il est complètement enclavé, donc je dis, on ne peut pas s'attendre à ce que les produits agricoles soient achetés à des prix rémunérateurs. Ce qui est important aujourd'hui dans le cadre de la politique du gouvernement, c'est qu'il faut réhabiliter les routes de certes agricoles. Si dans les régions il n'y avait pas de routes qui existaient, l'unique voie c'est la voie fluviale, il faut baliser les voies pour permettre ce que les bateaux, les navires quittent les centres-villes tels que Kinshasa pour arriver dans les coins de la République démocratique.
du Congo. Donc, le plus grand problème, c'est l'inaccessibilité de certains villages en République démocratique du Congo. Et c'est là qu'il faut fournir beaucoup d'efforts pour que nos villages deviennent complètement accessibles. Et comme vous l'avez dit, aujourd'hui, même si le village devenait accessible, si un produit ne peut pas se vendre aux États-Unis, il faut le transformer. Là, il aura une autre valeur. Il va prendre une autre direction. Mais lorsqu'on est en train de faire des choses comme ça, et on prend des tweets, non, il faut une réflexion de fond pour que la République démocratique du Congo devienne un pays émergent ou devienne une grande puissance agricole, parce que nous avons des potentialités. Il suffit d'une petite bonne volonté, il suffit également d'une petite réflexion pour que nous puissions mettre toutes ces idées ensemble et amener le pays vers le développement agricole véritable pour que les populations qui travaillent au niveau de l'agriculture améliorent leurs conditions de vie.
Voilà, Arthur nous appelle de Bounia. Arthur Ngolou est à Bounia, province orientale. Bonjour.
Oui, bonjour invité.
Nous parlons de l'agriculture.
Bonjour tout le monde.
Nous parlons de l'agriculture familiale. Qu'est-ce que vous avez à nous dire?
Oui, si je voudrais intervenir, c'est par rapport à ce que l'invité vient de dire tout à l'heure. Il n'y a pas de culture pour l'agriculture familiale. Nous sommes en train de voir ces spectacles de culture et de chanvre ça et là. Alors, ma préoccupation était de savoir, demander à l'invité Jean de Dieu, est-ce que réellement la culture des chanvres peut faire partie des agricultures familiales? Ensuite, ma seconde préoccupation était de savoir, réellement, est-ce que l'invité peut nous dire si, et seulement si, l'agriculture familiale peut être encouragé et parmi les programmes de pouvoir public pour faire en sorte que l'agriculture familiale puisse aller de l'avant. Est-ce que ça fait partie des contributions des pouvoirs publics? J'ai dit.
Bien, merci. Jean de Dieu Milingo.
Merci. Je commence par la deuxième question. Est-ce que l'agriculture familiale fait partie des priorités du gouvernement? Donc, nous devons être modérés dans ce que nous sommes en train de dire. C'est que les efforts sont en train d'être fournis. Le plus important, c'est que les gens aient la volonté. Parce qu'on dit toujours, je dis, un volontaire peut mieux faire des choses qu'un homme intelligent. Avoir la volonté de faire quelque chose, c'est très important. C'est pourquoi celui qui réussit à l'université, c'est celui qui a la volonté. Moi, je crois qu'il y a la volonté d'amener l'agriculture de l'avant avec le gouvernement actuel. Et il y a déjà la création du parc agro-industriel de Bukangalon. Comme nous l'avions dit, il faut savoir intégrer cette politique de création de parcs avec la promotion de l'agriculture familiale. Et on ne va pas s'arrêter là, mais il y a des efforts, il y a les discussions. On a des amis qui travaillent également là-bas à la primature et dans beaucoup. On essaye d'échanger avec eux pour que l'agriculture familiale, et ils le savent, que tout ce que nous avons comme production agricole, ça vient de l'agriculture familiale. Donc, en réalité, ça fait partie de leurs priorités. Alors, est-ce que la culture des chanvres fait partie également? Ça, c'est une question très compliquée, je dis, parce que notre ami doit savoir que les chanvres, c'est une culture qui est interdite en République démocratique, à ce que moi je sache. C'est une culture qui est interdite, parce que quand on vous va avec des chanvres, vous faites l'objet de la festation, parce que en Belgique, ce n'est pas interdit, hein, mais ici, c'est vraiment interdit. Voilà, donc la culture de chanvre, à mon avis, ne peut pas faire partie de l'agriculture familiale parce qu'elle est interdite. Donc voilà, je peux donner comme réponse à notre ami qui se trouve à Abou.
D'accord, elle ne fait pas partie de l'agriculture familiale. Alors, il a posé aussi la question de savoir comment aujourd'hui faire la promotion de l'agriculture familiale. Comment cela doit se faire pour encourager beaucoup plus les gens à s'adonner à cette forme d'agriculture?
Oui, aujourd'hui, le plus important, ce n'est pas de faire la promotion de l'agriculture. On peut faire la promotion de quelque chose qui n'existe pas, mais l'agriculture familiale déjà existe. Mais ce que nous devons faire aujourd'hui, au niveau des universités, au niveau des centres de recherche, au niveau du pouvoir public, ce n'est pas de faire la promotion de l'agriculture, mais c'est d'apporter un appui important pour que cette forme d'agriculture puisse jouer un rôle important pour le développement socio-économique de la République démocratique du Congo. Donc cette agriculture existe déjà. Il suffit que nous puissions mettre les stratégies nécessaires, nous puissions mettre les politiques nationales de promotion de cette agriculture, de soutien à cette agriculture pour que cette dernière joue le rôle qui lui revient. Donc voilà, je dis, je pense que c'est la réponse que je pouvais donner à la question que vous venez de me poser.
Oui, alors Jean de Dieu, dans les milieux ruraux, est-ce que les agriculteurs, je crois qu'ils sont quand même organisés, ils ont des coopératives, ils ont des associations, est-ce qu'ils peuvent pas s'organiser pour pouvoir acheter du matériel, des transformations qu'ils peuvent installer dans leur village pour que le produit ne puisse plus pourrir comme c'est le cas souvent?
Oui, je dis, je crois que ça serait trop exagéré de ma part de dire que non, les agriculteurs sont en association, ils peuvent s'acheter des matériels pour la transformation. Vous avez suivi la réaction de notre ami qui est à Mahagi, vous avez suivi la réaction de notre ami qui est à Dimbelenge au Kasaï occidental. Ils disent que les produits ne se vendent pas bien et les gens ont tendance à abandonner l'agriculture. Mais les gens ne peuvent rien vendre. Où est-ce qu'ils doivent avoir des moyens pour s'acheter des matériels et installer des petites unités de transformation de produits agricoles? C'est là que nous appelons les organisations non gouvernementales de développement. C'est là que nous appelons les partenaires du Congo. C'est là que nous appelons le gouvernement congolais à aider les associations qui existent à avoir des petites unités. On n'a pas besoin de grandes usines pour le développement de la République aujourd'hui. Le développement d'un pays par la promotion des petites et moyennes entreprises. Ce n'est pas avec des grandes unités, avec des petites unités de transformation qui peuvent être installées à travers la République démocratique du Congo. Ça peut booster l'économie de la République du Congo et amener vers le développement. Donc, voilà, je dis ce que je pouvais dire par rapport à ce que vous venez de me poser comme question.
Bien, pour réussir l'agriculture familiale ou pour la développer, vous avez dit qu'il faut une politique nationale de promotion, et un renforcement en moyens, donner les moyens aux institutions qui font la promotion, la production des semences et l'apprentissage des nouvelles techniques culturelles. Et puis, il faut installer des unités de transformation pour que le produit ne pourrisse ce point. Et cela permet de développer ce secteur, de permettre également aux agriculteurs de rentrer dans leurs droits. Mais Jean de Dieu Milingou, vous êtes agronome expert en environnement. Nous vous disons merci et bonne journée.
Merci, Jody. Merci à tous les auditeurs de la Radio Capri.